J'aimerais faire deux lectures avec vous. La première dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 5, la deuxième partie du verset 5. Il nous est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis un autre texte dans l'épître de Jacques, pardon, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir de la deuxième partie du verset 6, on retrouve ce même passage. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu ? Qui juge le prochain ? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est ce que votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, pour vous glorifier dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Dans ces textes, il y a cette introduction commune que l'on retrouve où il nous est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il y a également cette pensée que le diable cherchera et mettra en œuvre tous les moyens possibles pour porter atteinte à notre vie. Porter atteinte à notre vie spirituelle, à notre communion avec le Seigneur. Et s'il y a une réalité qui est que Jésus est là et que Jésus veut nous sauver, veut nous délivrer, veut nous pardonner, qu'il veut nous guérir, qu'il veut être là à côté de nous, chaque jour de notre vie, il y a également cette réalité que le diable, lui, fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous éloigner du Seigneur. Pour nous éloigner du Seigneur et pour porter atteinte à notre vie comme un lion va rugir et bondir sur sa proie. Et ce matin, je voulais m'arrêter quelques instants avec vous sur les terrains de chasse du diable. Parce qu'il y a une réalité que nous ne voulons pas mettre de côté, c'est que l'ennemi de nos arbres, de nos âmes, a des terrains préférés, favoris, pour faire du mal aux enfants de Dieu. Et si cela réjouit le cœur de Dieu, que nous puissions être près de lui, cela ne réjouit pas le cœur du diable. Mais au contraire, si nous nous éloignons de Dieu, cela fera le plan du diable et cela le réjouira. Nous l'avons lu, le diable est comparé à un lion rugissant, un lion qui pousse un cri terrifiant. Et quand on regarde, je ne sais pas si vous regardez des émissions animalières, etc., mais lorsque le lion attend sa proie et qu'il est en train de rôder et qu'il va bondir sur sa proie, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. On voit ce lion qui est là et qui va d'abord choisir un animal parmi le troupeau. Celui qui a peut-être celui qui est le plus à l'écart, celui qui a le moins de vigueur. Et le lion va attendre patiemment. Il va attendre patiemment le bon moment pour bondir, pour rugir sur la proie qu'il a en visuel. Et au moment où il va trouver le bon moment, il va bondir et il va ouvrir sa gueule et il va attraper sa proie. Et une fois qu'il l'attrape, il ne la lâche plus. Il ne la lâche plus. Dans un autre registre, je me rappelle qu'il y a encore quelques années, c'est moins répandu maintenant parce que beaucoup plus réglementé, mais c'était la mode des pitbulls. Vous vous rappelez de ces moments-là, hein? Dans les quartiers, beaucoup de personnes avaient des pitbulls, etc. Et moi, j'en voyais des amis qui avaient des pitbulls et ces chiens sont très impressionnants. Ils ne sont pas très grands, mais qu'est-ce qu'ils sont impressionnants? Ils font peur, hein? Et ils étaient prisés justement pour leur dangerosité. Et on m'expliquait que ce type de chien déployait une force extraordinaire, incroyable, dans sa mâchoire. Et que lorsqu'il mordait quelque chose ou quelqu'un, rien ni personne ne pouvait lui faire ouvrir la bouche si ce n'est par lui-même. Et il est arrivé, parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui travaillait dans la police, qui me disait qu'il est arrivé qu'il a été appelé sur des interventions où quelqu'un avait été mordu par un pitbull. Et il m'expliquait qu'il ne lâchait pas, ils étaient obligés de le tuer. Et même mort, le pitbull n'ouvre pas sa bouche. Il reste, c'est mécanique et la bouche reste fermée. Et à main d'homme, on n'arrive pas à ouvrir sa gueule. On doit casser la mâchoire pour qu'il puisse lâcher la proie. Alors, imaginez la force d'un lion. Imaginez combien un lion, lorsqu'il attrape sa proie, combien la force qu'il peut déployer, qu'il peut mettre en œuvre pour attraper et ne pas laisser partir sa proie. Et le diable est également est comparé à ce lion qui, lorsqu'il a une proie, fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas la lâcher et pour l'amener à mourir. Mais nous savons, parce qu'il y a cette réalité également, que nous avons celui qui est tout-puissant, celui qui peut nous délivrer et qui veut nous délivrer de la main de l'oppresseur, qui veut nous apporter le secours si nous sommes peut-être attrapés pour un temps dans les griffes, dans la gueule du lion. Ce Seigneur, ce Sauveur, ce Libérateur qui est venu et qui veut encore nous délivrer. La Bible compare le diable à ce voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le seul but du diable, c'est de nous faire du mal. Et parfois, nous voyons tellement de personnes qui refusent et qui rejettent le Seigneur parce qu'ils veulent vivre libre. Mais au final, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont sous le joug, hein, de ce lion rugissant. Et ce lion qui veut dérober la vie que Dieu a placée. Il veut égorger, détruire tout ce que Dieu a pu mettre dans les vies. Et j'aimerais voir au travers de quelques exemples ces hommes qui ont vécu des expériences très particulières, des épreuves particulières où Dieu a permis l'épreuve et où Satan s'est déchaîné contre eux. S'est déchaîné, mais Dieu les en a préservés. Dieu les en a gardés et Dieu les en a délivrés. Et on voit dans ces exemples que le chiffre 3 va revenir très souvent, très régulièrement, et que le diable va se jeter sur sa proie à trois reprises, à plusieurs reprises. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que le diable nous attaquera que trois fois et après on n'entendra plus parler de lui. Et pour nous rappeler que le diable essaiera encore et encore. Et il n'aura de cesse que de vouloir nous égorger, détruire et dérober ce que Dieu a placé dans nos cœurs, les expériences que nous avons pu faire avec le Seigneur. Et j'aimerais voir avec vous le premier exemple que nous connaissons bien, celui de Job. Vous connaissez cette histoire de Job, qui est vraiment une histoire très particulière, une histoire d'un homme qui avait tout pour être heureux, qui était béni de Dieu, un homme qui était intègre, un homme qui était près du Seigneur, un homme qui avait une foi et une droiture devant Dieu, qui était hors du commun, qui était reconnu. Lorsqu'on lit le début du livre de Job au chapitre 1er, il nous est dit que Job était cet homme, que cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait un cœur qui était droit devant Dieu. Il avait ce désir de vivre dans la sanctification. Et au-delà de ça, Dieu va le bénir. Dieu va lui donner tellement de biens, que ce soit familial, mais dans le domaine familial, mais également dans le domaine matériel. Lorsqu'on lit la suite, il nous dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Elle était bénie. J'ai 2 enfants. Et merci Seigneur, je me contente des 2 enfants. Il y a du boulot déjà. Il avait 7 fils et 3 filles. Bon courage, Job. Et au-delà de ça, il était béni dans le domaine matériel. Il était riche, fort riche. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'est incroyable comme les serviteurs passent après les troupeaux. Hein? Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Il était le plus riche, le plus important, qui avait la plus grande renommée. Et cela n'avait même pas fait tourner sa tête, parce que, on le sait, hein, que les biens matériels et les richesses, parfois, font tourner un peu la tête, hein, fait un peu tourner notre tête, mais lui était droit devant Dieu, et voulait rester intègre et droit, il voulait rester vraiment dans la crainte de Dieu et se détourner du mal. Job avait tout pour être heureux. Et lorsqu'on lit la suite, on voit que cela réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu dira à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? As-tu vu combien il est droit ? As-tu vu combien c'est un homme qui met en pratique et qui est droit à mes yeux, qui fait ce qui plaît à mes yeux ?» Et Satan va commencer à accuser Job, va commencer à porter des accusations. Et on voit combien Job, au travers de cette permission que Dieu va donner à Satan, de porter des assauts contre la vie de Job. On voit combien Job va être éprouvé. Job va être éprouvé et le premier terrain dans lequel le diable va vouloir se manifester, c'est dans les épreuves de la vie. Dans les épreuves de la vie. Job va être éprouvé dans sa santé. Job va être éprouvé dans la perte de tous ses biens, dans la perte de tous ses enfants. Il va être éprouvé dans un isolement, isolé de toute bonne influence et au contraire assailli de mauvaises influences. Il sera abandonné des hommes. Il va être abandonné à lui-même. Mais il savait une chose, c'est que Dieu ne l'abandonnait pas. C'est que Dieu était présent. Lorsqu'un enfant souffre, on voit toute la souffrance du père, de la mère, du parent. Et on peut imaginer la souffrance de Dieu en voyant cet homme qui réjouissait tant son cœur, qui va souffrir. Et j'aimerais vous dire que le diable essaiera en premier lieu de nous atteindre au travers de nos proches. Le domaine de la famille, le domaine de ce qui nous est le plus cher, ceux qui nous sont le plus chers, le diable va les utiliser pour porter atteinte à notre propre vie. On voit dans notre société combien le sens de la famille perd de sa valeur, perd de sa superbe. Dieu qui a instauré le mariage, Dieu qui aime la famille, Dieu qui veut bénir les familles, Dieu qui veut être là, être le chef de la famille, non pour mettre sous un joug, non pour écraser, mais au contraire pour bénir, pour restaurer, pour relever, pour encourager, pour vraiment répandre toute sa grâce. Et on voit combien aujourd'hui le diable se plaît à détruire et à diviser les familles. On voit aujourd'hui, et lorsque... Encore à mon époque, on ne l'entendait pas trop d'entendre des parents divorcés à l'école, de voir des enfants qui avaient des parents divorcés. C'était très rare. Il y avait des exceptions et c'était quelques-uns seulement qui avaient des parents divorcés. Aujourd'hui, c'est tout inversé. Aujourd'hui, tout est inversé. Alors, il y a les familles recomposées, etc. Et les familles monoparentales. Voilà, on met tout sous le terme de la famille, mais où est la valeur de la famille que Dieu avait voulu, avait destiné, avait préparé? Et le diable essaye vraiment par tous les moyens et essaiera au travers de nos proches et de ce qui nous est le plus cher de nous atteindre. J'ai déjà pu échanger et dire que Voilà, lorsqu'on a voulu vraiment servir le Seigneur, le diable s'est vraiment, a vraiment fait rage dans notre vie au travers de nos enfants, et surtout au travers de mon fils, hein. Mais au tout début également avec ma fille, ça a été difficile parce qu'avant 3 ans et dès l'âge de 2 ans, elle a dû être opérée à 3 reprises des yeux. Elle avait ce qu'on appelle des chalazions au niveau des yeux. Ce sont des espèces de boules de pus, etc., qui infectent les yeux et qui font des grosseurs au niveau des yeux. Et elle a dû être opérée en l'espace d'un an, entre 2 et 3 ans, à 3 reprises. Vous savez, quand vos enfants souffrent, c'est vous qui souffrez, hein. Quand notre propre chair souffre, c'est nous qui souffrons. Et on aimerait tellement prendre leur souffrance. Et le diable essaiera par tous les moyens de nous faire souffrir au travers de ceux qui nous sont proches. Mais Dieu est celui qui veut nous garder. Dieu est celui qui voit notre cœur tourné vers lui et notre désir de plaire à ses yeux, comme Job pouvait s'en inquiéter également de plaire aux yeux de Dieu. Et malgré les épreuves que Job va passer, il nous est dit qu'il ne péchera pas. Il ne péchera pas. Il ne dira rien d'injuste contre Dieu. Il ne péchera pas par sa bouche, etc. Il n'élèvera pas le poing contre Dieu. En rien, il va se tourner vers Dieu pour lui dire « Alors Seigneur, c'est ça le remerciement ?» Non, non. Il s'évertuera à vraiment rester dans cette droiture, dans cette intégrité, dans ce désir de plaire à Dieu et de faire le bien, de rechercher le bien et de s'éloigner du mal. Et je crois que cette arme que Job a utilisée et que nous devons utiliser dans notre vie au travers des épreuves de la vie, cette arme de résistance face à l'attaque, face aux attaques du diable, c'est cette sanctification, cette recherche de sanctification dans nos vies. Nous devons rechercher le bien. Jean a pu dire à son ami Gaius, bien-aimé, imite le bien et n'imite pas le mal. Et combien dans nos vies également, nous devons imiter le bien, rechercher ce qui est droit aux yeux de Dieu, rechercher l'intégrité de cœur, une droiture de cœur devant le Seigneur, rechercher et aspirer à demeurer dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu disparaît de plus en plus. Et combien le diable se joue de cela et pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de cette crainte de Dieu et pour vivre nos propres expériences et nous éloigner de Dieu, faire ce que nos cœurs désirent. Mais Job était cet homme, et Dieu va le répéter à plusieurs reprises. C'était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, Job qui était béni, Job qui avait tout pour être heureux, il va tout perdre. Il va tout perdre. Il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants. Dans un accident, la maison va s'écrouler, tous les enfants vont mourir. Ses biens, ses troupeaux, soit ils vont être tués, soit ils vont être enlevés, soit un feu va les brûler. Il va tout perdre. Même sa santé, il va la perdre. Je vous ai dit qu'il va être frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Et que pour soulager ses souffrances, il utilisait des tessons de bouteille ou mettait son corps dans la cendre. Et combien parfois les épreuves de la vie sont un petit peu comme ces épreuves de Job, à un degré moindre certainement, mais où nous avons l'impression que rien ne peut nous soulager. Nous avons l'impression que rien ne peut, qu'il n'y a aucune solution, et que l'épreuve est insoutenable, que l'épreuve est au-delà de nos forces, que l'épreuve, que l'épreuve que Dieu permet dans nos vies va nous amener à la mort. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu ne permet pas d'épreuves qui soient au-delà de nos forces, mais que dans chacune de nos épreuves, quelle qu'elle soit, Dieu permet déjà le moyen de nous en sortir. Dieu permet déjà le moyen de nous en sortir. Alors Job, malgré l'épreuve, il va donner cette phrase incroyable. Je ne sais pas si j'aurais pu sortir cette phrase. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est quand même des paroles qui qui relèvent du divin. Ce n'est pas des paroles humaines. Il n'y a qu'une vie tellement proche de Dieu qui, malgré les épreuves, peut amener à exprimer cela. Et vous connaissez ce chant « Béni soit ton nom » où il y a un moment donné, on chante ces paroles de Job. « Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. » Ce chant a été composé par un homme, par un Anglais qui s'appelle Matt Redman et par sa femme Bess Redman. Et ils ont composé ce chant et les paroles ont été composées et placées sur la musique de M. Redman. C'est Mme Redman qui a composé, qui a mis sur papier ces paroles. À la suite d'une épreuve douloureuse pour sa vie, à la suite d'une épreuve où elle a vécu six fausses couches consécutives. Et elle en voulait pas à Dieu. Et lorsqu'on a vécu cela avec mon épouse également, ça a été des moments difficiles. Et je me suis rappelé de ce chant et de ce que Job a vécu en étant dans la voiture et en allant à l'hôpital. Et je me suis dit, malgré les larmes, je me suis dit, Seigneur, je veux bénir ton nom. Même si c'est au-delà de mes forces. Merci Seigneur. Parce que tu as donné, tu as repris, mais tu béniras en ton temps. Tu béniras en ton temps. Et Job aspirait à cette bénédiction et s'attendait à la bénédiction de Dieu. Il attendait la consolation de Dieu. Il attendait cette consolation qui allait venir du Seigneur. Et Jésus aura pu dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et malgré les épreuves qui peuvent faire rage parfois dans nos vies, malgré peut-être ce lion qui est là et qui vient nous attraper, qui ne nous lâche plus, on a l'impression d'être là et d'être cette proie. On se débat de toutes nos forces, mais on n'arrive pas à sortir de l'emprise de l'épreuve. Mais j'aimerais vous dire que malgré l'affliction, Dieu, au travers du Seigneur Jésus veut nous consoler. Alléluia. Et nous connaissons, nous savons ce que Jésus pourra dire, qu'il nous enverra cet autre consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra et qui consolera nos cœurs. Et nous voulons laisser l'Esprit de Dieu consoler nos cœurs malgré les épreuves de la vie. C'est ça le miracle de Dieu. Et qu'en son temps, et comme au temps de Job, malgré l'épreuve qui a duré, malgré les mauvaises influences, Job aura la consolation de son cœur, de son corps, de son être tout entier. Il nous est dit qu'il recevra, il va être béni au double de ce qu'il avait premièrement. Au double. Au double dans ses biens, mais Dieu lui a fait grâce, il lui a donné quand même que 7 filles, ses 3 filles. Dieu l'a béni, l'a restauré, l'a rétabli dans son état premier. Un autre homme qui a souffert dans son corps, c'est Paul. Paul qui va vivre un moment particulier avec cette écharde dans la chair. Et lorsque Paul a cette écharde dans la chair, alors il ne nous est pas dit exactement ce que représente cette écharde, mais c'est certainement une maladie ou une infirmité. Il y a quelques indices dans l'Épître aux Galates, mais on n'est pas sûr de cette infirmité qui a frappé Paul. Mais Paul pourra dire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, et à partir du verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. Et Paul avait une place tellement importante. C'était un homme tellement reconnu, un apôtre tellement important, l'un des plus grands apôtres. Et pour éviter qu'il puisse être enflé d'orgueil, Dieu va permettre que dans sa chair, il soit atteint également. L'orgueil, c'est quelque chose de difficile, hein, à combattre. C'est tellement facile de laisser l'orgueil prendre la place. C'est tellement facile de laisser place à notre orgueil, à une élévation personnelle, à une gloire humaine. La moindre capacité, la moindre faculté que Dieu permet dans nos vies nous amène tellement facilement à nous enorgueillir, à à nous enorgueillir. Mais Dieu permet des épreuves pour nous rappeler que nous ne sommes que des hommes et que malgré la petite élévation que nous pouvons peut-être espérer sur terre, nous restons bien petits devant la grandeur de Dieu. Et que le seul qui est grand, le seul qui peut rabaisser, le seul qui peut élever, c'est le Seigneur. Et Paul va vivre ce moment trois fois et va demander à Dieu de le délivrer de cette infirmité, de cette écharde qui était dans sa chair. Et quelle réponse de Dieu ? Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que j'exauce ta prière. Tu n'as pas besoin que je te redonne toutes tes capacités. Parce que pour que tu ne t'enfles pas d'orgueil, j'ai mis cela en toi. Et compte plutôt, au-delà d'une guérison, au-delà d'une délivrance, compte plutôt sur ma grâce. Ne compte pas sur tes capacités. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur quelque chose qui pourrait te donner toutes tes forces et qui t'amènerait peut-être à t'enorgueillir et à t'élever. Mais compte plutôt sur ma grâce, dira le Seigneur. Parce que c'est dans la faiblesse, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est quand je suis faible que je suis fort, dira Paul à un autre moment. Et combien de fois nous l'expérimentons dans nos vies, que c'est lorsqu'au moment où nous sommes le plus faibles que nous voyons des choses extraordinaires. C'est au moment où nous baissons les bras, où nous disons, Seigneur, écoute, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Toi, fais-le parce que moi, je n'y arrive pas. Je te fais confiance et je compte sur ta grâce. Et c'est là qu'il agit. C'est là qu'il agit. C'est là qu'il nous délivre. C'est là qu'il nous étonne. C'est là qu'il répand sa grâce. C'est là qu'il montre sa puissance. Et combien Dieu veut montrer sa puissance? Vous croyez que Dieu veut montrer sa puissance? Amen. Alors comptons sur sa grâce. Ne restons pas sur nos capacités. Je l'ai encore entendu cette semaine. Mais j'arrive, je compte que sur moi-même. Je n'espère que sur moi-même. Et j'ai répondu à cette personne, « Écoute, si tu comptes que sur toi-même, pourquoi tu es encore dans l'épreuve aujourd'hui ? Pourquoi tu es encore dans l'affliction ? Pourquoi tu n'arrives pas à te sortir des épreuves ? Seigneur, fais cela et permets cela pour que tu puisses regarder à lui et compter sur sa grâce. Compter sur sa grâce. » Paul avait certainement toute capacité de s'enorgueillir et nous aimons également élever les hommes. « Ah, c'est un tel qui prêche. Oh, il a une onction particulière. Ah, il y a tel groupe, tel congrès, tel rassemblement. Ah, ça déménage là, il faut y aller. Hein. C'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. Hein. » Et comme le disait notre frère Joël Murati vendredi soir, c'est pas pour l'homme qu'on vient au réunion. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Parce qu'on veut compter sur sa grâce encore et encore. On veut le voir lui. On veut voir sa puissance à lui se manifester. On veut voir son action en œuvre. Trois fois, il a prié. Mais Dieu lui dira, « Ma grâce te suffit. Ton orgueil, je permets cela pour que tu puisses rester dans l'humilité. » Et nous l'avons lu dans les textes qui ont introduit cette méditation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est certainement pour cela également que Dieu a changé le nom de Saul de Tarse en Paul, qui veut dire petit, petit. Et combien Paul saura parler de l'humilité et de cet appel à l'humilité lorsqu'il dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Paul a accepté d'être humilié et au travers des persécutions qu'il a reçues. Lui qui persécutait l'Église. Et c'est lui qui donnera ce verset que nous connaissons tellement bien. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est vrai que Dieu permet de changer les déserts en étant incroyable, en source d'eau pure. Mais parfois également, il y a la bénédiction et d'un coup, il y a l'épreuve. Hein. Et Paul a accepté de vivre ce moment où il était craint, où il était reconnu, où il avait une place, où il était élevé au niveau des hommes pour être rabaissé et être lui-même persécuté. être lui-même emprisonné, être lui-même mis à mal, être lui-même rejeté. Alors, quand nous disons, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, oui, bien sûr. Et amen à cela. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans ces versets également, que nous ne puissions pas seulement accepter la bénédiction, mais également les temps de difficultés, les temps d'épreuves, parce que dans ces temps-là, nous voyons également la main de Dieu qui est fidèle et qui veut nous délivrer. Le diable essaiera de porter atteinte au travers de notre orgueil, mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu et laisser nos cœurs être empreints d'une réelle humilité. D'une réelle humilité. Et puis, il y a l'épreuve que Jésus va connaître dans le désert, où Satan va venir à lui. Peut-être le diable va essayer de nous atteindre au travers des épreuves de la vie, au travers de notre orgueil et une élévation personnelle, mais il essaiera au travers de différentes tentations. Lorsqu'on voit dans l'évangile de Matthieu, notamment le chapitre 4, le verset 1, nous est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Pour être tenté par le diable. Il y avait un but précis à cet envoi dans le désert. Il y avait un projet, Dieu avait prévu quelque chose. Et cela était nécessaire pour Jésus, mais également pour nous. Parce que cela, ce que l'expérience de Jésus, que Jésus a pu vivre, nous rappelle et permet d'affirmer les paroles que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pourra donner à plusieurs reprises, où il nous est dit « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et il dira un peu plus loin également, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Cela était nécessaire, cette épreuve était nécessaire pour Jésus, mais également et surtout pour nous-mêmes. Parce que nous voyons, au travers de ce que Jésus a expérimenté dans ce désert, que lui également a été tenté en toutes choses. Et que si lui a été tenté et que lui n'a pas commis de péché, alors combien peut-il nous secourir dans nos tentations ? Eh oui, il est ce souverain sacrificateur qui nous comprend parfaitement dans nos épreuves face à la tentation, face aux choses qui sont là et qui attirent nos regards, qui attirent notre cœur humain. Jésus a été emmené dans le désert. Là, ce même texte dans l'évangile de Marc nous dit, chapitre 1, verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Poussa Jésus dans le désert. Et on voit dans cette expérience de Jésus un fort contraste. Et je le disais il n'y a pas très longtemps, mais il y a un contraste très étonnant. Il y a ce moment où Jésus se fait baptiser. Il y a ce moment où Jésus est immergé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Et au moment où il ressort, au moment de ce baptême, on voit et tout le monde entend audiblement et voit visiblement le ciel s'ouvrir, l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe et une voix qui va se faire entendre audiblement par tous ceux qui étaient présents. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le verset qui suit, c'est quoi ? Aussitôt, il fut poussé dans le désert. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Nous avons la joie la semaine prochaine d'avoir un baptême. Gloire à Dieu. Et nous aimons les journées où il y a des baptêmes. Vous aimez les journées où il y a des baptêmes ? Ah oui, c'est toujours une joie, hein, de voir la famille de Dieu qui grandit. On veut s'unir à la joie des anges dans le ciel, hein. Et si nous voudrions parfois, et surtout quand c'est nous qui nous faisons baptiser, hein, si nous voudrions que cette journée ne s'arrête jamais et que nous puissions durer dans la joie, là Jésus n'a pas eu le temps de se réjouir. Hein. À peine le baptême réalisé, qu'il est poussé dans le désert, dans l'épreuve, dans un but précis, être tenté par le diable. Et Jésus sera tenté à trois reprises par le diable. La première tentation, c'est qu'après 40 jours et 40 nuits, passés sans manger dans le désert, généralement, un homme, il a faim. Hein? Vous auriez faim aussi, je pense. Une journée de jeûne, et déjà, le ventre nous rappelle qu'il lui manque quelque chose. Là, Jésus est resté 40 jours, 40 nuits, sans manger. Alors, on peut comprendre que le diable, voyant cela, va tenter d'utiliser cette faille éventuelle. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous, on n'aurait pas attendu 40 jours et 40 nuits. Hein. Seigneur, fais que ces pierres deviennent des pains, j'ai trop faim, j'en peux plus. Jésus, il va voir cette tentation, mais il va résister à la tentation. Il ne péchera pas. La tentation, on dira à l'apôtre Jacques, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et les tentations que le diable va utiliser également dans nos vies sont tout simplement dans des domaines qui attirent nos cœurs humains. Et certainement que là, le cœur humain de Dieu, de Jésus, aspirait à manger. Il est le Fils de l'homme, donc il a connu les mêmes limitations que nous, du corps humain. Il a connu la faim, il a connu le sommeil, il a connu la tristesse, il a pleuré devant le tombeau de son ami, Lazare. Et il a connu les mêmes limitations et certainement qu'il avait faim. Mais Jésus va résister. Il va résister au travers d'une arme que nous devons tellement mettre en pratique. La parole de Dieu. Une arme de résistance face à l'attaque du diable. La parole de Dieu. Jésus pourra dire au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette tentation que Jésus va connaître nous parle d'une tentation de consommation. Vous savez que nous sommes dans une société de consommation? On clique et on a tout de suite. On clique, c'est payé, et puis demain, on l'a à la maison. Et presque, ils nous mettent tout dans le frigo. Hein. Et on veut tout de suite, et tout est à disposition facilement. Mais il y a bien d'autres consommations que la société nous propose, au travers de l'ordinateur, au travers des smartphones, au travers de toutes ces choses. Des choses qui nous éloigneraient plutôt de ce qui est bien et qui nous rapprochent plutôt de ce qui est mal, bien souvent. Faisons attention à ce que notre vie, notre corps, notre âme consomme, de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, de ce que nos vies, ce dont nos vies sont imprégnées. Jésus s'attend à la parole de Dieu. Jésus s'attend à cette nourriture divine, nourriture céleste qui vient de Dieu. Et la première nourriture dont nous devons mettre et donner à notre âme, à notre vie, à notre être, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas résister aux tentations si nous ne méditons pas et si nous ne faisons pas de la parole de Dieu une arme de résistance dans notre vie. La deuxième tentation, c'est une tentation de défi que le diable va proposer à Jésus. Il va l'amener en haut du temple et il va lui dire, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas et les anges viendront pour te porter dans les bras et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais on ne met pas Dieu au défi non plus. Avec cette mauvaise motivation, avec le désir seulement de satisfaire nos propres désirs. L'apôtre Jacques, il me semble, dira, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions, vos propres désirs. Et combien, bien sûr, certains, et on met en avant parfois ce verset que Dieu peut donner au travers du prophète Malachie. Chapitre 3, verset 10, lorsqu'il est dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Mais il faut lire tout le verset. Et tout le verset nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous, sur vous la bénédiction en abondance. » Oui, mettons, on peut mettre Dieu à l'épreuve dans le sens où même dans, dans, dans ce que nous devons rendre au Seigneur, même si c'est de notre nécessité, nous le redonnons au Seigneur parce que ça lui revient. Et nous mettons Dieu à l'épreuve dans le sens où nous savons qu'il pourvoira en chacun de nos besoins et qu'il nous donnera en abondance. Mais avant toute chose, c'est à nous de donner. Avant toute chose, parce que lui, il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Et puis la troisième tentation, c'est une tentation de la gloire humaine, et on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Paul, l'orgueil. Satan dira à Jésus, il l'amènera sur une haute montagne, il lui fera voir tous les royaumes du monde, et il leur dira, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus, encore une fois, utilisera la parole, et il lui dira, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans nos épreuves, face à la tentation, faisons arme de résistance cette parole de Dieu, cet héritage qui nous a été laissé. Paul pourra parler de ces armes de Dieu, ces armes spirituelles, ces armes dont nous devons nous revêtir afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et l'une de ces armes, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous devons nous munir de cette arme afin de résister face aux ruses du diable. Et puis je termine avec ce dernier homme qui a vécu également un moment particulier, qui va être réclamé par le diable pour être criblé comme le froment, Pierre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 34, il nous est dit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Pierre va être confronté à une situation où des hommes vont lui dire, mais tu étais avec Jésus. Tu étais de ceux qui suivaient Jésus, de ceux qui croyaient en sa parole. Tu étais un des leurs. Et Pierre, il va nier. Il va renier le maître. Combien de fois sommes-nous confrontés? Ah, mais tu es chrétien, toi? Quelle est notre réponse? Et bien souvent, y allons au début de ma conversion, j'osais pas dire, et même quand j'étais enfant, j'osais pas dire que le dimanche matin, j'allais à l'église. Et plus jeune, etc., mes amis me voyaient vivre, je disais surtout pas que j'allais à l'église. C'était la honte à l'époque. Hein. Et bien souvent, même dans mon travail au début, c'était difficile. Mais le jour où j'ai pris autorité sur cette peur de dire qui j'étais, que j'étais un enfant de Dieu, le jour où j'ai exprimé librement ce en qui et en quoi je croyais, je n'ai pas été pointé du doigt. Au contraire, beaucoup ont été interpellés. Beaucoup se sont interrogés et ont questionné parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme cherche malgré tout, malgré son égarement, cherche quelque chose pour sa vie éternelle. Et il posait des questions. Et j'ai pu témoigner à plusieurs reprises à mon patron, à ma chef directe également, à plusieurs collègues de travail, et plusieurs également, ont entendu. Maintenant, c'est entre les mains du Seigneur. C'est entre les mains du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, mes bien-aimés, qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu. Vous le savez?
Oui.
Bon, vous ne le savez pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Eh oui, c'est quand même pas rien d'être des enfants de Dieu. Il y en a, ils espèrent naître sous une bonne étoile. Ah, si j'étais né sous une bonne étoile. Mais nous sommes nés mieux que sous une bonne étoile. Nous avons été rachetés par grâce. Et nous sommes enfants de Dieu, héritiers du Dieu puissant, co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est pas rien. Alors que peut me faire un homme? Que pourrait dire un homme? Nous n'avons rien à craindre, alléluia, parce que c'est, le Seigneur est là. Alors Pierre va vivre ce moment où il va être là, mais tu étais un des leurs. Et Pierre va renier le maître. Pierre va renier et va nier de connaître Jésus. Et quand le coq va chanter, et il nous est dit également dans l'évangile de Luc, il me semble, lorsque Jésus, une fois que le coq aura chanté, va regarder Pierre. Et là, Pierre va se rappeler ce qu'avait dit Jésus dans le texte que nous avons lu. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu m'auras nié 3 fois. Mais si parfois nous pouvons manquer dans notre foi et dans notre témoignage, nous voulons nous rappeler de cette arme qui, elle, ne faillit jamais. L'intercession de Jésus. L'intercession de Jésus qui prie pour chacun de nous. Il est celui qui intercède en notre faveur. Il prie pour que notre foi ne défaille pas. Et si notre foi venait à défaillir, alors nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère du Seigneur Jésus pour lui demander pardon. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors bien sûr, on ne veut pas rester dans le fait de renier le Maître, mais au contraire, demander à Dieu de faire grandir notre foi et de prendre autorité sur peut-être la peur, mais de dire avec assurance, je suis un enfant de Dieu. Je crois en Jésus parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a libéré, parce qu'il m'a pardonné et parce qu'il veut le faire aussi pour chacun de ceux qui sont là à mon contact. Jésus est celui qui prie pour nous. Il est cet avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur. Alors, mes bien-aimés, le diable essaiera de toutes ses forces de porter atteinte à notre vie. Il essaiera de toutes ses forces de nous faire mourir, de nous refroidir, de nous rendre moins bouillants, de nous amener à devenir de simples religieux. Mais la vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie de religion, c'est une vie bouillante, une vie de zèle, une vie avec le Seigneur, une proximité avec le Seigneur Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia! Et nous voulons être déterminés, être zélés dans le fait, dans notre vie spirituelle et de voir Jésus agir au travers de chacun de nous. Amen. Utilisons ces armes. Recherchons la sanctification dans nos vies. Restons dans l'humilité, dépendant de la grâce de Dieu. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. Et laissons la foi grandir au travers de cette parole. Au travers de cette parole qui nous a été laissée par notre Dieu. Et nous voulons nous attendre encore à la prière d'intercession de notre Sauveur Jésus-Christ auprès du Père. Amen. Seigneur, merci. Parce qu'il y a bien des épreuves, il y a bien des difficultés. Mais Seigneur, toi, même si le juste est souvent atteint, souvent éprouvé, tu en délivres toujours. Seigneur, merci parce que tu veux nous armer et tu veux nous donner, Seigneur, ces armes de résistance face aux ruses du diable, face aux attaques de l'ennemi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de les utiliser et de ne pas les laisser de côté, mais au contraire, de tenir ferme et de ne pas nous décourager face à l'épreuve, mais à persévérer. Comme Job, qui a persévéré et a attendu patiemment la consolation qui viendrait de toi. Seigneur, merci parce que la consolation, elle est réelle pour chacun de nous. Et tu veux encore la déployer dans nos vies. Merci de bénir chacun d'entre nous, de nous amener encore plus près de toi et que vraiment nous puissions demeurer fermement attachés à toi, attachés à ta parole. Seigneur, attachés à une vie réelle en toi. Merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.